Moi, je sais.
Mais non, il y a une vie après normale.
Chers auditeurs, bonjour. Nous poursuivons cette semaine notre série d'émissions consacrée à la table ronde organisée par l'Association des anciens élèves. Cette fois-ci, c'est Claire-Marie Rangon qui nous présente son parcours, un double cursus ENS et médecine, et son actuel exercice de la pédiatrie. Elle nous dit tout de son domaine de recherche, l'auriculothérapie. Bonne écoute!
Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie, en tout cas, je remercie du membre de l'administration des anciens élèves de m'avoir invité parce que ça c'était très inespéré. Donc je suis moi je suis une des vieilles par rapport à Katrina. J'ai intégré l'école en 95, donc et pas du tout lors du premier concours, lors du second concours. Donc au départ, j'ai d'abord passé le concours d'entrée en médecine, et c'est en deuxième année de médecine que j'ai présenté le concours pour entrer à l'ENS. Parce qu'en fait, quand on parle d'équilibre entre des passions, au départ, je voulais d'abord être médecin. Ça s'explique parce que mon père était médecin, entre autres. Mais très vite, lors de mes études, j'ai découvert les limites de la médecine. Il y a beaucoup de choses qu'on n'expliquait pas à l'époque et qu'on n'explique toujours pas. Et vraiment, il y avait ce côté recherche qui naissait en fait en moi, mais qui ne s'exprimait pas encore. Et puis, c'est un hasard, c'est un de mes professeurs de faculté qui m'a envoyé une documentation sur l'entrée à l'école normale sup après 2 ans en médecine, parce que j'avais bien réussi au concours en fait. Et donc, j'ai préparé le concours d'entrée, et donc en SVT. Et quand j'ai réussi, on m'a demandé qu'est-ce que tu vas faire ? Est-ce que tu vas continuer la médecine ? Est-ce que tu vas faire de la recherche ? Et en fait, j'ai dit bah, non, je ne peux pas envisager la recherche sans la médecine, et je ne peux pas laisser tomber la médecine, et je ne peux pas continuer à faire ma médecine sans ma recherche. Donc, j'ai dit, je fais les deux. Alors, ce n'est pas forcément à conseiller aux jeunes, parce que, en volume horaire, je ne sais plus, mais le magistère à l'époque de SVT, c'était 860 quelques heures. Et en médecine, on commençait les stages hospitaliers et on avait des cours en plus. Donc, heureusement, en fait, ça a été possible grâce à une amie. Qui s'appelle Annelise Poguet, qui est peut-être une membre, mais qui était très brillante, qui était dans la promotion de Normale Sup, et qui, en fait, me passait ses cours. C'est-à-dire que le matin, j'étais en stage hospitalier, au lit du malade, je prenais ma voiture, je mangeais sur le pouce, j'arrivais en TD à l'ENS l'après-midi. À l'intercours, je récupérais les photocopies, enfin, je photocopiais à la bibliothèque les cours de ma copine Annelise, et le soir, j'apprenais les 2 cours, médecine et normale sup. Donc, c'est vrai que c'est pas évident, et heureusement, donc, j'ai réussi, et donc j'ai fait licence maîtrise DEA, et j'ai demandé la dernière année sabbatique à l'ENS pour préparer l'internat de médecine. Alors, là, c'est important à souligner pour les jeunes aussi. Quand on prépare l'internat de médecine et qu'on sort de Normale Sup, c'est très difficile parce qu'on n'arrive plus à apprendre par cœur. On se pose toujours la question, mais pourquoi ? Et quand on pose la question pourquoi, souvent on dit, c'est comme ça, on ne sait pas. On vous donne des acronymes pour essayer de retenir des formules, mais c'est vraiment très déstabilisant, peut-être la période la plus déstabilisante, je trouve. Heureusement, encore une fois, j'ai réussi à l'internat, et donc j'ai décidé de consacrer à la pédiatrie, parce qu'au fond, je voulais faire de la la médecine interne, c'est-à-dire être un peu le détective, le médecin détective. On a des symptômes, c'est quelle est la maladie derrière. C'est un peu ça la médecine interne. Et comme je n'étais pas très bien classée dans les résultats de l'internat, j'ai choisi la médecine interne de l'enfant, la pédiatrie. Donc j'ai pu partir à Paris, parce que donc, au départ j'étais à l'ENS de Lyon. Et donc, je suis partie à Paris. Et là, j'ai préparé en parallèle, lors de mon internat, ma thèse de sciences. Parce que grâce à l'ENS, en fait, j'ai trouvé un laboratoire. Comment ça s'est passé? En fait, il y avait à la Cité des sciences, chaque année, il y a des journées portes ouvertes. Et donc, moi, j'étais allée un peu en touriste, comme ça, voir un petit peu ce qui se passait. Et là, il y avait Alain Berthaus qui parlait, et ça m'avait vraiment frappée, intéressée, fait résonner quelque chose en moi. Et j'étais allée lui parler, et soudainement, j'ai vu apparaître un demi-binôme de l'ENS qui était dans son labo, et on a commencé à discuter, et donc M. Alain Berthaus m'a dit, mais allez voir de ma part le professeur Évrard, qui est toujours professeur en neurologie pédiatrique. Et j'ai été le voir, je lui ai dit, oui, moi, je veux faire un test de science en même temps que mon internat. Là, c'est parce que j'avais anticipé le problème de la famille. Je me suis dit, je suis une femme, je veux des enfants et je ne veux pas sacrifier ma vie familiale. Donc, avant les enfants, je veux faire un test de science. Et donc, il m'a permis de faire ma thèse de science lors de mon internat. Et donc, après la fin de mon internat et de ma thèse de science, j'ai choisi la neurologie pédiatrique. J'ai fait mon clinica à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Donc, voilà pour le cursus un peu scolaire. Après, une fois mes diplômes en poche, j'allais bien gagner sa vie. Et en fait, je suis assez rebelle, ça ne se voit pas comme ça, mais je n'acceptais pas vraiment la hiérarchie un peu trop féodale du système français hospitalier et même un peu de la recherche. Et à ce propos, j'avais lu lors d'un passage à la bibliothèque de Normale-Sup un article de Roger Guillemin qui parlait justement de ce problème de la recherche française. Et je lui avais écrit par internet, il m'avait répondu, on s'était rencontrés lors de ces passages sur Paris. Et vraiment, enfin, j'incite, c'est une digression, mais j'incite tous les jeunes qui ont comme ça des coups de cœur, des vibrations, à écrire. Maintenant, avec internet, on a accès à pas mal de personnes et ça vous ouvre des portes quand vous êtes jeune, comme disait Rimbaud. Quand vous avez 17 ans ou plus, non, au contraire, vous êtes très sérieux. On peut être très sérieux quand on a 17 ans. Voilà. Donc, après l'internat et le clinica, je ne trouvais pas de poste hospitalier parce qu'il faut, pour rentrer dans le moule, suivre un patron qui vous donne un sujet, qui vous donne une mission, et si vous acceptez, c'est un peu... son service, bah vous avez un peu tout ce que vous voulez. Et moi, ça vraiment, c'était pas mon idéal. Donc, j'ai décidé de m'installer en ville, au cabinet, et de débuter ce que j'écris, l'auriculothérapie. L'auriculothérapie, c'est une technique très très vieille, dont je vous présenterai quelques éléments par la suite, qui est enseignée et pratiquée dans certains hôpitaux, notamment à l'Institut Gustave Roussy, qui est un grand centre de recherche européen sur le cancer, à Villejuif. Et j'avais découvert cette technique lors de mon internat, parce qu'elle permettait de soigner des douleurs rebelles, des effets secondaires des traitements de chimiothérapie, de radiothérapie. Et donc, une fois que j'étais un peu plus libre, j'ai étudié cette auriculothérapie lors d'un DIU à Bobigny. Et je me suis installée en ville, et vraiment, je vous montrerai plus tard, on a des résultats extraordinaires. Et donc, mon but actuel, c'est de travailler en recherche clinique pour que ça soit mieux connu, pour que ben, on l'utilise un peu partout. Pourquoi? Parce que c'est l'avenir. Ça coûte pas cher. Alors, dans une sécurité sociale qui est en faillite, là, il y a juste des aiguilles. 8 aiguilles, ça coûte 6 euros. Voilà, peu d'effets, enfin, pas d'effets secondaires. Vous aidez énormément de symptômes. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu plus. Donc ça, c'est la première page d'une revue qui s'appelle Medical Acupuncture. Et vous voyez ici une oreille avec une sorte d'aiguille qui pique l'oreille. Alors, il faut vous dire que, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a deux oreilles et deux hémisphères cérébraux. Ça tombe bien. Chaque oreille est branchée sur les deux hémisphères. Donc, principalement sur les deux hémisphères. Et en stimulant de façon assez invasive, c'est-à-dire pas juste en appuyant, mais en perçant, enfin, en enfonçant une aiguille quelques millimètres sous la peau, on peut, via la conduction des nerfs au cerveau, activer de façon spécifique des zones du cerveau. Et ça, pour un neurologue, un neuropédiatre, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que les médicaments, vous avez beau trouver des agonistes les plus spécifiques possibles, vous avez toujours quelques récepteurs de certains types dans différentes parties du cerveau. Alors qu'ici, sur une surface de l'oreille qui est quand même assez nette, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un microscope pour aller pointer la surface de l'oreille, on arrive à stimuler une zone qui est très petite au niveau du cerveau. C'était juste pour vous montrer ce que c'était que l'auriculothérapie. Donc c'est limité à l'oreille et ça vise à stimuler le cerveau et donc par ce biais agir sur l'ensemble du corps. Juste un article qui montre que c'est vraiment scientifique, c'est que si on stimule avec une aiguille une zone de l'oreille, eh bien par exemple, ici, vous avez une stimulation mécanique de la zone de représentation à l'oreille du pouce droit. C'est si vous stimulez et que vous faites une imagerie fonctionnelle, vous allumez une zone, qui est ici l'aire pariétale S1, qui est la même, enfin qui est superposable, à celle qui est allumée lorsque vous stimulez le pouce directement. C'est-à-dire que le cerveau ne fait pas la différence entre la stimulation sur le papillon d'oreille et la stimulation du corps. C'est-à-dire que vous pouvez donner quelque part des requêtes thérapeutiques au cerveau via le papillon d'oreille. Avec ma formation, quand j'ai découvert cette technique, je me suis dit, mais c'est bingo. La plasticité cérébrale chez l'enfant, elle est maximale. Elle ne peut pas être plus plastique, enfin, sauf peut-être le fœtus, mais... elle existe chez l'adulte. Hein. Pendant longtemps, on l'a ignorée, mais il y a une régénération de certaines zones du cerveau. Donc, avec cette technique, je me suis attaquée, on va dire, à certaines maladies en neuropédiatrie. Alors, d'autant plus facilement qu'il y a très peu de médicaments. Ça augmente. Il y a de plus en plus de médicaments adaptés au dosage de l'enfant, mais les recherches sont difficiles parce qu'ils font un accord des parents que les enfants, c'est une population qui n'est pas forcément très intéressante pour le moment au niveau des grosses boîtes pharmaceutiques parce que c'est plus intéressant Alzheimer. Donc, pour ces raisons, la neuropédiatrie n'a pas énormément de moyens et en même temps, il y a des maladies aussi graves, voire plus graves que chez l'adulte, parce que vous avez entendu parler, donc, bien sûr, d'Alzheimer et des maladies neurodégénératives, mais elles existent chez l'enfant. Et vous avez des enfants qui naissent normalement, qui apprennent à parler, à marcher, et qui, brutalement, vont perdre la parole, la marche, tout, et décéder. Et c'est génétique, enfin bon, bref. Il y a de grosses pathologies. Et je me suis dit, il faut essayer chez l'enfant. Et jusqu'à présent, les professeurs d'auriculothérapie ne le faisaient pas parce qu'ils disaient l'oreille n'est pas formée jusqu'à l'âge de 7 ans, elle est en croissance, on peut le faire, mais avec prudence. Moi, j'avais rien à perdre, les gamins, ils allaient mourir de toute façon. Alors, comme il n'y avait pas d'effet secondaire, bien sûr, avec l'accord des parents, et en utilisant la crème Emla, parce que ce sont des enfants, donc les piqûres, c'est pas non plus très agréable pour personne, mais encore moins pour les enfants. Donc j'ai commencé et vraiment, je vais vous raconter quelques résultats que j'ai qui sont vraiment extraordinaires. C'est pour ça que maintenant, j'ai été embauchée à l'hôpital Robert Debré, qui est l'un des premiers hôpitaux européens pédiatriques, donc à Paris, pour exercer l'auriculothérapie sur certains patients. Et donc je raconterai mon plus beau cas clinique. C'est un petit garçon de 4 ans qui vient par hasard consulter. Et en fait, il a un retard de langage. Et son père est très préoccupé. Il me dit, mais on m'a même parlé d'autisme, il ne parle pas du tout, il est très renfermé. Voilà, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Alors moi, j'examine l'enfant et je me rends compte qu'en fait, cet enfant, il comprend tout. Il regarde dans les yeux, il est très intelligent. Ils sont très sensibles, il n'y a pas de trouble du comportement, certes il est inhibé mais il ne peut pas parler, donc forcément c'est un peu difficile. Et j'explique au père que pour l'instant il n'y a pas grand chose, on propose de l'orthophonie, on essaie de trouver une cause à ce retard de langage, que ça ne me semble pas être de l'autisme, vu les éléments dont je vous ai parlé. Et je lui dis, moi, je peux proposer cette technique parce qu'il n'y a pas d'effet secondaire et puis ça peut activer les zones du cerveau. Donc, voilà. Donc, il accepte. Et donc, je commence le traitement. Donc, en fait, je vois les enfants à un mois d'intervalle, trois fois. Pourquoi ? Parce que c'est comme quand on apprend un cours, il faut répéter pour que le cerveau comprenne le système. Donc, la première fois, je le clique et je dis aux parents, rendez-vous dans un mois. Le mois suivant, les parents arrivent, la première chose qu'ils me disent, mais dis donc, c'est resté longtemps, parce que ce sont des aiguilles qui restent un certain nombre de temps, qui tombent toutes seules, sans laisser de trous, puisque c'est très superficiel. Donc, les parents disent, oh là là, c'est resté très longtemps, près d'un mois, et vous nous aviez dit que ça tombait autour de deux semaines. On était très inquiets, je dis, c'est dommage, pourquoi vous ne m'avez pas appelé? Moi, je trouve que c'est plutôt un bon signe que ces aiguilles soient restées. Un mois, ça veut dire que le cerveau résiste et que donc, quand les aiguilles sont tombées, ça a dû débloquer certaines choses. Et je demande donc aux parents, mais alors qu'est-ce qui s'est passé quand les aiguilles sont tombées? Et là, la mère s'effondre en larmes et elle me dit, le jour où les aiguilles sont tombées, il m'a dit, maman, je t'aime. Il n'avait jamais dit de phrase, il n'avait jamais dit de mots, à part des bisyllabes. Il n'était pas dans sa bulle, il était vraiment connecté. Et en fait, il y avait une erreur de diagnostic, ce n'était pas du tout un autisme, c'était une dysphasie, c'est-à-dire un trouble du développement neurologique, où il y a deux possibilités dans la dysphasie, soit des difficultés d'expression, c'était le cas de cet enfant, soit des difficultés de compréhension, ou des fois un tableau un peu mosaïque. Donc là, c'était une dysphasie. Et en fait, j'avais activé la zone, une des zones impliquées dans le langage, enfin deux zones en tout cas, et ça avait été extraordinaire. Et donc, j'ai suivi cet enfant qui parle, en même temps qui fait des phrases, enfin, de façon extraordinaire. Enfin, certes, il doit avoir un vocabulaire moins riche que les autres, mais enfin, ça ne se voit pas du tout lors d'une conversation. Et alors, je reçois la lettre du pédopsychiatre qui me suivait, cet enfant, et qui écrit, brutalement, soudainement, il s'est mis à parler, et sans donner d'explication, sans chercher à comprendre. C'est ça qui est frappant, c'est-à-dire que les gens, il y a des choses extraordinaires qui se passent sous leurs yeux, et ils ne se posent même pas la question, mais qu'est-ce qui a entraîné ça? Oui, souvent c'est comme ça, ça devait être à ce moment-là, on ne sait pas la cause, on ne sait pas pourquoi, mais bon, à ce moment-là, c'est arrivé. Donc voilà, donc, je voudrais insister sur... l'intérêt de la formation à l'ENS, en tout cas pour moi, pendant les études, c'est une acquisition d'une capacité de synthèse et d'organisation, c'est-à-dire que dans mon cas, il fallait gérer deux cursus de front, donc anticiper, planifier, avoir un esprit de synthèse, très difficile. Deuxièmement, acquérir un esprit scientifique parce que ça c'est fondamental en médecine, je trouve. Donc ne pas accepter, on dit que c'est comme ça, voilà, bien sûr, bon, il faut des bases quand même, un triangle à trois côtés, d'accord, mais un minimum d'esprit critique, un minimum de remise en question, voilà, pour avancer. Troisièmement, une ouverture d'esprit. Je ne suis pas sûre que si je n'avais pas été formée à l'école normale supérieure, si j'avais assisté donc, à ces séances d'oculothérapie à Gustave Roussy, j'aurais réagi de la même façon avec cette formation scientifique. J'ai voulu comprendre pourquoi, j'ai fait le DIU et maintenant, avec cette connaissance à la fois des signes cliniques des maladies et cette connaissance du cerveau, ça c'est le côté recherche, c'est passionnant tout ce qu'on peut faire. Donc il y a des techniques qui existent, qui ne sont pas forcément dans les livres qu'on peut rencontrer, il faut avoir cette ouverture d'esprit de pourquoi ça pourrait marcher. Comment ça marche. Et puis, la dernière chose, c'est à NormalSup. Moi, quand j'avais reçu le prospectus que ce professeur m'avait envoyé pour préparer le second concours, c'était écrit l'ENS, l'école où tout est possible. Et là, je suis d'accord. C'est-à-dire que c'est une sorte de clé. Si vous avez des idées, si vous êtes curieux, et bien, grâce à l'ENS, vous pouvez vous ouvrir des portes qui n'auraient jamais peut-être été ouvertes. Et moi, j'encourage tous ceux qui, les élèves actuels et les anciens élèves aussi, donc à imaginer un plan de carrière, enfin des possibilités qu'on ne leur a pas présentées, mais qu'au fond d'eux, ils ont envie de développer. Et d'en parler, parce qu'il y a des tuteurs, comme Katrina disait, on a cette chance dans les premières années d'avoir des tuteurs, de discuter avec des gens qui ont beaucoup d'expérience, et qu'on a de moins en moins, je trouve, dans les facs. J'ai appris dernièrement qu'à la faculté où j'étais de médecine, maintenant il y a des grands amphithéâtres, enfin, même pas des vidéoconférences avec 2000 élèves, on ne peut pas vraiment poser de questions, enfin, c'est dommage, bon, ça nous pourrait du compte. Hein, je ne suis pas contre le progrès, mais en tout cas, avoir un contact rapproché avec des enseignants de qualité à NormalSup, c'est un atout formidable. Voilà, je vous remercie de m'avoir invité.
Ce matin, en lui présentant son projet pour le contrat quinquennal à venir, Olivier Faro a expliqué justement qu'il ne fallait pas choisir. Il prenait l'exemple d'une élève qui suivait à la fois un cursus en photographie, en art, et puis un cursus de recherche en littérature, parce qu'il ne fallait pas choisir. Et tu as un bon exemple pour montrer que bah, finalement, ne pas choisir, c'est aussi un avantage. Tu as beaucoup parlé de ta formation à l'école pour faire de la médecine, mais inversement, comment est-ce que les médecins perçoivent ou pas les normaliens? Est-ce que l'ENS est connu dans ce monde professionnel qui est la médecine? Est-ce qu'il y a une reconnaissance particulière, parce que vous n'êtes pas très nombreux à faire un cursus de médecine en parallèle ou après une formation à l'école?
Tout à fait. Alors, je ne sais pas trop, parce qu'à Lyon, il y a quand même eu un certain nombre d'étudiants qui ont fait médecine, et voilà, il y a Antoine Poff qui est parmi nous, et qui ont fait aussi NormalSup. Donc, je pense qu'à Lyon, c'est un peu différent des autres villes. En gros, je pense qu'ils ont tous la vision des élèves des grandes écoles, hein, en médecine, je pense qu'il les voit un peu dans une bulle. Enfin, ils connaissent bien sûr tout dans la suite, ça, il n'y a pas de souci. Après, ils ne savent pas tous qu'il y a des passerelles entre les deux mondes, et c'est dommage. Mais c'est pour ça aussi que je suis venue, c'est-à-dire que faire connaître, dire qu'il n'y a pas qu'une façon d'entrer à NormalSup. D'ailleurs, s'il y en avait une, je ne serais pas rentrée, parce que je suis quelqu'un de très rebelle, comme je l'ai dit, et puis j'ai un peu comme l'écrivain dans le livre de Katrina, Auguste, je suis un peu paresseuse quelque part, j'avais pas envie, non, mais bizarrement, paradoxalement, en fait, je voulais être prof d'anglais, quand je l'ai dit, parce que j'avais, comme les enseignants, j'avais 2 mois de vacances, et je pouvais voyager. Donc, tu sais ce qu'on disait
comme les clients apparaissent.
Oui. Voilà.
Oui, tu dis que tu es paresseuse.
Oui, mais je ne m'arrête pas. Enfin, je sais plus, j'ai été très loin. Bon, c'est pas grave, ça va venir.
Michel Poprin a une question. Tu peux juste lui passer le micro.
Bon, j'étais très, très impressionné par votre intervention. Je vous admire beaucoup. Parce que vraiment, vous avez travaillé. J'ai une de mes filles qui est pédiatre à l'hôpital de Claire à Clamart. Rien que déjà l'internat, etc., ça suffisait pour comme ça. Et donc, que vous ayez mené les deux de front, et en plus sur un front de recherche médicale pointu, chapeau. Quoi. Là, vous êtes quelqu'un de formidable et j'avais rarement vu ça dans l'école. Je vais vous poser une question subsidiaire complètement ridicule. Quand vous êtes rentré à l'école, même sur le second concours, vous avez signé un engagement décennal.
Oui.
Alors, c'est le fait de servir dans des hôpitaux publics vous a dégagé de l'engagement. C'est ça, je m'en doutais aussi. Hein. Et de toute façon, maintenant, le temps est passé, vous pouvez être en cabinet libéral comme vous voulez. Alors, vous n'avez pas eu de problème de ce côté-là.
Non, tout à fait. Alors, je ne suis pas qu'en cabinet libéral.
Hein. Oui, oui, vous avez dit que vous êtes aussi attaché à.
Robert
Dubreuil, excusez-moi. Mais vraiment, chapeau, admiration totale de ma part sur votre cheminement.
Alors, je vous remercie, mais vraiment, je tiens à remercier. Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé, notamment cette amie, Alice Pouguet. J'aurais pas pu réussir sans elle, parce qu'elle me prêtait ses cours, et je ne vous ai pas dit, mais quand je ne comprenais pas toujours ses notes, je l'appelais, elle m'expliquait tout. Bon, elle est extrêmement brillante, elle a réussi major à sa première année, mais à l'époque je ne savais pas, elle était juste sympathique et c'est pour ça que je lui avais demandé. Non, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé, il y a des professeurs en médecine, il y a Antoine Thor qui est présent, je ne pourrais pas dire que c'est tout seul. Par contre, c'est vrai que j'étais très motivée, un peu comme Katrina, qui avait pensé à l'avance ce qu'elle voulait dans la suite, pas ce qu'elle voulait écrire. Je crois qu'on... La clé aussi, c'est la motivation. Moi, je voulais être médecin, je voulais être un bon médecin. Et pour moi, un bon médecin, c'est comprendre la cause des maladies pour les traiter.
Oui, finalement, votre parcours n'est pas dû à votre parcours en ENS ni à vos études de médecine. Si j'ai bien compris, c'est que ça a créé un climat et il y a eu un phénomène extraordinaire, c'est que vous ayez découvert l'auriculothérapie. Mais vous l'avez découvert tout seul. Et vous avez enclenché sur vos deux cursus en tête père.
Alors, en fait, tout c'est une question de rencontre. Je l'ai découvert toute seule, mais c'est parce que j'étais interne à Gustave Roussy en cancérologie pédiatrique. Et je me suis intéressée vraiment à cet aspect parce que je me suis posé des questions sur pourquoi ça marche aussi bien. Et parce que j'avais eu un cursus scientifique où vraiment on va au plus profond des mécanismes, j'ai voulu aller plus loin. Parce que plein de gens vont à Gustave Roussy, ils ne sont pas forcément intéressés. Là, il y a une société savante, c'est quelque chose de bien codifié, mais je vous dis, dans 10 ans, ça va percer sur tous les fronts. Il y a une étude qui se passe à Pompidou, justement, HEGP, parce que l'auriculothérapie permet de lutter contre les effets secondaires de l'hormonothérapie pour les femmes qui ont un cancer du sein. L'hormonothérapie, suite au traitement du cancer du sein, entraîne des bouffées de chaleur très invalidantes, très très invalidantes, et pas grand chose qui marche. Elles sont tellement invalidantes, ces bouffées de chaleur, que les femmes ne reprennent pas leur travail à cause des bouffées de chaleur, souvent. Donc, l'auriculothérapie a des résultats extraordinaires. C'est tellement extraordinaire que l'APHP a accepté de financer un projet de recherche sur ce sujet. Il y en a, moi je travaille sur deux éléments, il y a l'IRM cérébral, parce qu'il faut sédater les enfants pour qu'ils ne bougent pas, pour qu'on puisse avoir des images intéressantes. Or, quand ils sont tout petits, on met un biberon, on les prive de sommeil, ça y est, ils dorment. Quand ils sont plus grands, il y a des médicaments qu'on peut un petit peu leur donner. Puis entre les deux, c'est difficile de les... S'ils font plus de sieste, ils sont très agités, c'est très difficile. Donc avec l'auriculothérapie, comme j'avais travaillé à un moment, avant d'être à Robert Debré, dans un hôpital périphérique où il n'y avait pas d'anesthésie générale pour ces enfants, donc je débrouillais avec l'auriculothérapie, on avait des résultats, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir des images sans leur faire d'anesthésie générale. Donc voilà, c'est aussi, voilà, vous voyez, en fonction de là où je travaille, je me dis, bon, comment je peux m'en sortir avec ce que j'ai. J'ai pu faire ma thèse de science parce que, en fait, c'est M. Berthoz qui m'a dit d'aller voir M. Évrard. Et en fait, il m'a dit ça parce qu'il travaillait avec mon binôme, hein, qui était son thésard. Enfin bon, donc on a sympathisé. Enfin, vous voyez, je dirais, bien sûr, en fait, c'est un concours de circonstances, mais c'est la double formation qui m'a permis d'avoir ce...
Vous êtes très enthousiaste pour l'auriculothérapie. Bon, il y a pas mal de différentes médecines en France. Et je voulais donc savoir ce que ça représente par rapport à d'autres médecines. Parce que bon, tout le monde connaît l'homéopathie, l'acupuncture. Et donc, une personne, je prends un exemple. Hier, justement, j'ai quelqu'un qui débarque chez moi et qui dit, j'ai des acouphènes, est-ce que vous croyez que l'acupuncture pourrait me guérir? En fait, il se faisait soigner pour un cancer, pour un abcès à l'oreille, donc ça venait peut-être de là, mais bon, j'étais là, moi-même je m'intéresse à la médecine comme ça. Pourquoi? Parce que si vous n'arrivez pas chez le médecin en disant ce que vous avez, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et donc, et ce qui est vrai, si vous vous débrouillez tout seul, et ben vous en sortez très bien, alors qu'à côté de vous, on enlève tous les morceaux à quelqu'un, alors que ce n'était pas le même. Bon. Donc, j'aimerais savoir l'auriculothérapie, ce que ça représente, et par rapport à l'acupuncture, par exemple, je veux dire, combien il y a de praticiens. En gros, je veux dire, est-ce que c'est un tout petit quelque chose en France actuellement? Est-ce que dans d'autres pays, c'est plus développé? Vous voyez?
Alors, il n'y a pas énormément de praticiens. Il y en a une centaine, à peu près 200, je pense, qui sont formés de façon scientifique à la faculté avec un diplôme interuniversitaire. Parce que, c'est comme pour l'hypnose, hein, il y a des dérives, hein, il y a des gens... Enfin, donc, bien formé, il y a, on va dire, à peu près 200. Il y a un annuaire qui existe, hein, de ces auriculothérapeutes. Je peux vous laisser les coordonnées du site internet. En fonction de là où vous habitez, il y a des médecins référents. Il y en a dans le monde, mais pour une fois, la France est leader. C'est-à-dire que c'est le docteur Adlini qui a rendu... Enfin, qui a permis d'avoir une image scientifique à l'auriculothérapie, puisque c'est lui qui a montré la correspondance avec l'imagerie fonctionnelle. D'accord ? Donc en France, il y a beaucoup de gens qui viennent se former à Bobigny, il y a beaucoup d'Italiens, j'ai un ami Gary qui vient de Boston, il y a des gens d'un peu partout, du Portugal, enfin partout en Europe qui viennent. Voilà. Ce n'est pas une médecine parallèle, vous avez hésité un moment à dire le mot, ce n'est pas comme l'homéopathie, parce qu'en fait c'est très scientifique. Moi je suis d'abord neuropédiatre, d'accord ? On va me parler de parties du cerveau anatomique, c'est-à-dire le lobe frontal, le corps calleux, etc. Un neurologue va me comprendre, un neurophysiologiste va me comprendre. Si vous parlez à un acupuncteur, j'imagine, parce que je n'ai pas étudié, il va vous dire les méridiens, je ne sais pas quoi. Voilà, donc ça ce n'est pas scientifique. C'est peut-être vrai, mais ce n'est pas encore un langage qui peut s'échanger avec des médecins ou des chercheurs sur le cerveau. D'accord ? Nous, on se base sur la neurophysiologie. Pour déterminer quels sont les points qu'on doit placer, on doit avoir un mécanisme en tête. Sinon, on n'a pas de résultat. C'est pour ça que c'est scientifique. Si on sait ce qu'on traite, si on sait quelles zones sont impliquées dans telle ou telle pathologie, qu'on les traite dans un ordre bien précis, on a énormément de chance, on va dire 80% de chance que ça marche. Vous voyez ? Parce qu'il y a toujours des patients résistants. Il y a même des fois, moi je mets des aiguilles, les aiguilles ressortent. C'est-à-dire que le corps ne veut pas. Le patient résiste tellement que physiquement le corps n'accepte pas l'aiguille. C'est arrivé deux ou trois fois. Donc c'est rare. C'est rare, heureusement. Mais je dirais que c'est de la médecine scientifique à l'état pur, l'auriculothérapie. Vraiment. On a longtemps dit, même quand je faisais mes études de médecine, oui, la médecine c'est un art, c'est pas scientifique, c'est faux. La médecine deviendra scientifique de plus en plus. Je pense et j'espère, parce que comme ça on aura vraiment un grand nombre de résultats. Même si l'être humain, on a tous des particularités anatomiques, on a tous des vies différentes, mais justement, en fait, le cerveau est un peu pratiquement pareil, et surtout on agit sur la plasticité du cerveau. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on peut modifier, on peut moduler beaucoup de choses grâce au cerveau. Et c'est pour ça qu'on est aussi efficace. On ne s'adresse pas au corps, on s'adresse d'abord au cerveau qui est la commande de tout. Donc, voilà. Après, je pense qu'il faut vous essayer, il n'y a aucun effet secondaire. Donc, ça, c'est quand même de nos jours assez intéressant par rapport aux médicaments ou autre chose. Pourquoi ? Parce que, en fait, le cerveau revient à la dernière bonne configuration connue, ce qu'on appelle l'homéostasie. Donc, il ne va pas être en surdosage ou en sous-dosage, quel que soit, vous voyez, il va se remettre au niveau d'équilibre harmonieux pour le corps. Donc, voilà. Que dire d'autre ? Donc, je vous ai dit pour le nombre de médecins, pour les autres pays. Essayez. Allez sur le site, allez voir. Mais je vous dis, on prend Paris dans 10-15 ans.
C'est quoi le site ?
Alors, je vais faire circuler des cartes. Je ne connais pas si auriculo, canal, médecine.
Vous faites Google auriculo et vous allez y arriver.
Ah oui, je suis persuadée.
Non, mais bon, il suffit de faire Google auriculothérapie et vous allez y arriver.
Alors, il y a des sites un peu.
Oui, sans doute. Mais.
Si tout se passe bien,
quand on s'en sort tous de la dessus, on doit être capable de faire le truc.
Oui, vous tapez Dr. Alimi David, A-L-I-M-I. Lui, c'est lui le professeur. Et donc, si vous tapez A-L-I-M-I David, c'est lui qui est le professeur.
Il y a une question. Je ne suis pas bien écouté, mais vous pouvez nous en dire un mot. Problème de la douleur.
Ah, oui. Oui, dites-moi.
Parce que le petit enfant, alors, il n'y aurait plus. C'était pas tellement un problème de souffrance.
Non, tout à fait.
Alors, vous pouvez nous en dire un mot, comment ça va, la douleur vous intéresse?
Ah, bien sûr. Alors, l'auriculothérapie a d'abord été utilisée dans les hôpitaux, comme Gustave Roussy, d'abord comme traitement antalgique. Et c'est pour ça qu'il a été validé, parce qu'il arrive à soulager des douleurs rebelles à tous les traitements. Or, dans les métastases. Cancéreuses, certaines douleurs neuropathiques sont terribles. Donc, elles sont soignées par des antidépresseurs, par la morphine, par plein de choses, et malgré ça, les patients ont très très mal. Alors, c'est simple en fait, puisque on a mal parce que son cerveau ressent la douleur. Si on coupait l'arrivée, si le cerveau ne sent plus la douleur, ben, on a pas mal, même si on vous écrase le bras. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a des filtres de la douleur, il y en a trois. Il y a la substance réticulée, le thalamus et l'air associatif. Donc, en auriculothérapie, quand vous piquez le point, la localisation du corps où ça fait mal, au niveau de l'oreille, puis vous mettez un de ces filtres, vous diminuez de façon très nette, de façon significative la douleur. Donc, tout à fait, la première cause l'utilisation de l'auriculothérapie, c'est pour traiter les douleurs. Et justement, moi j'ai voulu aller plus loin parce qu'en neuropédiatrie, il y avait beaucoup de maladies qui n'étaient pas de médicaments. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, pourquoi pas l'essayer, puisqu'il n'y a pas d'effet secondaire et qu'on n'a rien à proposer sur des pathologies très lourdes, mais y compris la douleur, bien sûr.
Et sur un très large éventail.
Ah oui, que ce soit la migraine, les sciatiques, même pour les accouchements, qu'est-ce qu'il y a d'autres. Les membres fantômes. Ça, ça fait très très mal. Un membre qu'on coupe, une amputation, c'est des douleurs terribles. Mais justement, parce qu'il faut atteindre le thalamus. Or, en auriculothérapie, on atteint le thalamus.
Une question d'image du corps ?
Oui, il y a tout ça. Ben oui, parce que le membre, dans notre cerveau, même si le membre n'est pas là, la représentation du corps, elle est là. Si par exemple, on vous dit « fermez les yeux » et « pensez que vous fermez les yeux », c'est la même zone du cerveau qui est activée. D'accord ? Donc le cerveau, il a sa carte du corps à la naissance. Et puis après, il y a une c'est pour ça que la notion de plasticité est importante. Les aveugles, normalement, on voit, le nerf optique va avoir des projections sur le lobe occipital, donc la partie postérieure du cerveau. Et bien, les aveugles qui utilisent le braille, eux, en fait, la partie postérieure du cerveau va être reliée aux projections de la pulpe des doigts, puisqu'ils lisent le braille. Vous voyez, le cerveau, si ce n'est pas utilisé, si, en fait, c'est la théorie de la cible, c'est-à-dire si vous n'avez pas de connexion entre les neurones, ils meurent. Donc, s'il y a une zone qui est sous-utilisée, ils vont créer des projections vers d'autres zones. C'est la plasticité. Donc, l'auriculo permet de guider cette plasticité et de la potentialiser. C'est pour ça que j'ai dit, de façon un peu caricaturale, un agitateur de plasticité. Oui, c'est impressionnant. Et chez l'adulte comme chez l'enfant.